kleine Echafon. Ne vous gênez pas, on est là pour ça. Nos coups sont faits pour vos couteaux. On est là pour ça, notre viande est faite pour vos crocs. On est là pour ça.
Trop loin ce soir encore, on est là pour ça, avec Hélène, bonsoir, avec Ben, bonsoir, et avec Thomas, bonsoir, comment ?
Si tu ne mets pas les micros, on ne peut pas dire bonsoir.
Ah oui, si je ne vous mets pas les micros, vous ne pouvez pas dire bonsoir. Alors, avec Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Ben.
Bonsoir.
Avec Thomas, bonsoir. Voilà, donc Hélène voulait qu'on s'excuse parce que...
Parce que la semaine dernière, on n'était pas là.
La semaine dernière, on n'était pas là, on faisait le pont.
Voilà.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une bêtise ?
Non, non, c'est comment tu l'as dit, qui était merveilleux.
On fait le pont. Alors Ben, le dernier Portishead, tu as craqué.
Comment t'as fait ? J'ai craqué.
Tu as craqué.
Eh oui, je vais vous parler de Portishead.
Wow.
On écoute peut-être avant ?
Oh bah ouais, volontiers, allez, vas-y.
Un petit morceau du dernier album.
Boum. Ah non, je tiens la manette à l'envers. Boum. Someone might care.
Parliament.
Alors, on vient d'écouter un très beau morceau du dernier album de Portishead. Donc, c'était pour parce qu'ils viennent de sortir leur troisième album, Third, With My Beautiful Accent, et un album super bien. Voilà, c'est leur coup de cœur, tu vois, bloum, ding, 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 comme ça.
Mais je croyais que ça n'existait plus, qu'ils s'étaient séparés, tout ça.
C'était triste.
Eh bien non. En fait, pour revenir un peu sur l'histoire de Portishead, on va prendre une petite minute. Faut savoir que le groupe en fait avait été formé par un monsieur qui s'appelait Geoff Barrow, qui est donc toujours dans le groupe, et en fait qui est ingénieur du son pour les groupes de Bristol, les groupes de trip-hop qui se formaient, notamment il est participé comme ingénieur du son à un enregistrement d'un album de Massive Attack qui était Blue Lines. Et d'ailleurs Portishead en fait est une ville qui est pas très sur la côte, pas très loin de Bristol. Voilà. Alors n'y allez pas, il n'y a rien à voir à Portishead. Moi j'y suis allé, c'est absolument inintéressant, c'est très beau, mais il n'y a rien à voir avec la musique, hein. Donc on comprend 2-3 trucs sur la mélancolie tout ça, mais sinon...
sinon c'est un peu la Roche-sur-Yon, tu veux.
Oui, mais plus joli quand même. Non, il y a des belles côtes, non c'est chouette, hein, pour y aller, vous pouvez y aller, manger une glace et puis revenir, mais faut quand même, je sais pas combien d'heures de bus, même depuis Bristol pour y aller, enfin c'est... enfin bon bref. Et voilà, je vous déconseille, enfin, bon, à part si vous avez le temps, quoi. Et donc ils avaient s'étaient formés en 91 et en fait ils avaient sorti un premier album en 94, The Dummy, qui avait fait un putain de carton parce qu'il était très beau. Et après ils avaient fait un autre en 97 qui s'appelait Portishead, l'album éponyme comme on dit. Et là, plof.
Quoi, plof?
Plof.
Ils ont trop connu,
ils ont fait un plof.
Ils ont fait plof. Ils ont fait non, ils ont fait un super beau truc. Ils ont sorti le live qu'ils ont resté à Roseland, New York City Live. Avec un orchestre de 35 cordes et tout, c'était merveilleux, super chouette, un album super chouette. Et puis là, ils ont décidé que ça allait pas, qu'il fallait partir. Et avec Bess Gibbons, donc la chanteuse, a décidé de prendre du recul, elle est partie à la campagne, tout ça, machin. Et Geoff Barrow n'allait pas très bien, parce que du coup, il disait, merde, j'ai fait 2 superbes albums, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Et là, la question.
La drogue?
Peut-être, je crois. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il en a. Enfin, bon, bref, on va pas non plus. C'est un peu une émission de people, je vous le rappelle. Malgré vos tendances.
Audience.
Malgré vos tendances à toujours vouloir peopleiser la culture, je me permets de mettre le hall là. Et donc, Wes Gibbons qui avait sorti un album avec Rustin Man pour le Out of Season. Et qui, en fait, Joss Barrow, avec le guitariste et de originel du trio, qui avait formé au début originel, voilà, simplement, qui avait fait les 2 premiers albums. On a décidé de sortir ce dernier album qui est sorti depuis quelques mois, même pas. Des quelques mois en Angleterre, aux États-Unis, quelques semaines en France.
Alors, pourquoi ils se sont reformés? S'ils étaient engueulés et tout?
Non, ils n'étaient pas du tout engueulés contraire, ouais, c'était vraiment une marque de recul parce qu'ils avaient un peu les jetons de faire toujours la même chose,
de gagner trop d'argent, tout ça.
Ouais, et en fait, ils ont fait du mécénat ou des choses comme ça, en fait, avec l'argent qu'ils avaient gagné. Portishead, c'est-à-dire un peu impliqué dans les scènes, notamment la scène de trip-hop de Bristol. Et donc là, ils ont sorti, ils ont eu une fulgurance créative, et ils ont sorti cet album qui est incroyable, puisque c'est du Portishead, mais ce n'est plus du Portishead. C'est ça qui est chouette. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le...
Vas-y.
Non, mais en fait, ils ont réussi un truc qui est quand même pas facile pour beaucoup de groupes qui avaient quand même un son très identifiable, et notamment le son de Portishead, le trip-hop... légèrement langoureux de Portishead, etc., qui avait fait ses grands tubes. Et là,
avec les mains, comme ça.
Comment tu fais, Buzz Gibbons? S'il te plaît, refais-moi Buzz Gibbons de nos auditeurs. Si des producteurs cherchent une chanteur et une chanteuse, je vous donnerai les contacts de mes collaborateurs à cette émission de radio.
Trop gentil.
On est là pour ça, @free.fr. Et donc, ils ont réussi complètement à se renouveler parce que Geoff Barrow a eu la bonne idée d'introduire plein de nouveaux sons, un son beaucoup plus électro, un peu plus brut, voire limite presque indus par moment. Et pas du tout cette grande nappe qu'il avait l'habitude de faire, mais au contraire des percussions assez martelantes, retour au vieux synthé des années 80, il y a une espèce de vieux son comme ça, des oscillateurs de base, des synthétiseurs, des choses comme ça. Et ça donne en fait, et ils ont réussi à conserver avec la voix, comme vous avez pu l'entendre, la superbe voix de Bess Gibbons. Et donc ce mélange là, ça donne que ils ont conservé l'énergie qui faisait que ça marchait très bien entre eux et qu'ils avaient à construire quelque chose d'assez chouette, tout en renouvelant complètement leur son et en expérimentant plein de choses. Et donc ça donne plein de très très beaux morceaux.
Et ça donne vachement envie d'en réécouter. Hein.
Voilà, et donc on va carrément réécouter un.
Allez,
you wonder why. I don't know what you see. Of course I
C'était Portishead présenté par. Qu'est-ce que je fais là?
On nous fait un jingle.
Ah oui, pardon.
Bah voilà.
Il y a eu une scission à l'intérieur du trio, nous sommes désolés, chers auditeurs.
Ouais, je crois qu'on va réfléchir,
on va
faire un autre album dans 10 ans, ok.
Ouais,
allez. c'était mon tour, là, on passait au cinéma.
C'est toi qui avais des trucs.
Non, c'est que dimanche j'ai vu Rue Santa Fe, en fait, de Carmen Castillo, au Dietrich. Qui est un film, alors je vais situer quand même. Carmen Castillo, c'était la compagne d'un homme politique, enfin d'un, c'était pas un homme politique, au départ un militant, voilà, un militant chilien sous Pinochet, donc c'était Miguel Enriquez, il s'appelait, et il a été, et c'était un des fondateurs du MIR, je crois, c'était mouvement de la gauche radicale en fait. Movimiento de la Izquierda Radical ou un truc comme ça, voilà. Et donc qui était un groupe plus à gauche que Allende, c'était un groupe plus populaire, plus ancré dans les milieux populaires en tout cas. Et en fait Carmen Castillo a été blessée en 74, donc vous souvenez, le 11 septembre 73, il y a le coup d'État au Chili, Pinochet prend le pouvoir, Allende exécuté. exécuté, ouais. Et donc, en, je sais plus quelle date exactement, en 74, en fait, donc à ce moment-là, il y a plein de militants en fait qui sont entrés dans la clandestinité, en fait, qui ont rasé leur moustache, qui ont changé de costume, etc., qui sont entrés dans la clandestinité. Non, mais elle le dit dedans. Enfin, en fait, c'est dit dedans. Ce qui était intéressant, c'est justement cet aspect de la clandestinité. Et en 74, la junte au pouvoir, qui avait des fichiers de tous les militants, forcément, avait eu le temps de torturer plein de gens, et donc a retrouvé la trace de Miguel Enríquez et Carmen Castillo, a envoyé l'armée et a descendu Miguel Enríquez, donc le compagnon de Carmen Castillo. Et Carmen Castillo, elle a pu, elle a été blessée, elle était enceinte, elle a été blessée. Et grâce à ça, presque, enfin, c'est un peu ça, hein, elle a été, quelqu'un a appelé l'hôpital, à l'hôpital ils l'ont aidée, et finalement elle a pu être expatriée, elle a pu se rendre, elle a pu échapper à la junte en allant en France. Et donc là, ça fait 35 ans après quasiment, 35 ans après, elle revient sur les lieux, donc rue Santa Fe, où elle habitait avec son compagnon, là où il s'est fait descendre. Et elle retrouve un peu la mémoire, en fait. Enfin, elle retrouve la mémoire. Je pense pas qu'elle l'ait perdue, mais elle retrouve les traces, en fait, de son passé. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que bon, bah, elle va voir. Alors, il y a un peu deux films, c'est-à-dire qu'elle essaye de retrouver un peu. Il y a un peu ce côté où elle essaie de retrouver les gens qui l'ont aidée. Elle essaie de retrouver aussi la trace de son compagnon. Donc. Qui est mort, enfin la trace en tout cas, retrouver un peu ça, et elle interroge aussi, d'un autre côté, elle interroge aussi le mouvement, le MIR, qu'est-ce qu'il est devenu après, qu'est-ce que ses compagnons de lutte ont fait, comment ils ont vécu la lutte, comment, alors il faut savoir que à partir de 78, je crois, le MIR qui avait d'abord prôné l'exil pour les militants a lancé une opération qui s'appelait le Retour, El Retorno, qui était une opération pour que les militants retournent au Chili et se battent de l'intérieur, en fait. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu des retours, et donc elle interroge. Il y a des moments vraiment très très poignants, enfin des choses assez belles. Et puis elle essaye de. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle interroge aussi qu'est-ce qui. Maintenant, alors maintenant, voilà, il y a eu toute cette histoire militante, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comment ça survit ça à travers les jeunes ? Que font les militants maintenant ? Voilà. Alors ça, c'est un petit peu en amorce à la fin du film. On se dit que voilà, ça peut-être donner lieu à autre chose, mais bon, la réflexion est lancée et c'est assez intéressant. Et il y a ce qui est aussi pas mal, c'est qu'elle interroge aussi les militants sur leurs erreurs, sur dire pourquoi. Enfin, le truc du retour, ça a été aussi assez meurtrier pour certains, quoi, qui se sont fait choper du coup et qu'on eu de la torture. Mais en même temps, ça a eu des effets positifs parce que finalement, le combat interne de ces gens-là a aussi peut-être permis de virer Pinochet. Et voilà. Alors moi, ce qui est un peu dommage, je trouve, avec le film, c'est que c'est Carmen Castillo qui fait le film. Je pense que ça vient de là, en fait, c'est qu'elle, c'est pas une cinéaste, c'est une femme qui a beaucoup lutté, tout ça, donc qui s'est réfugiée en France, mais qui a milité aussi elle de l'extérieur. Donc le film fait peut-être un quart d'heure, une demi-heure de trop, et je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit un petit peu beaucoup Carmen Castillo, des fois, quand elle interviewe des gens, on voit le plan où elle est à côté, puis elle fait han-han avec la tête. Bon, c'est un peu lourdeau. Alors au début, je me suis dit, on la voit un peu à l'image, mais en même temps, ce qu'elle dit aussi, elle, dans son film, c'est voilà, je suis une survivante, je suis encore là, je peux encore, moi, dire des choses, etc. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd, surtout vers la fin où vraiment on la voit beaucoup et il n'y a pas vraiment d'utilité à ce qu'elle soit tout le temps dans le plan, en fait. Et c'est un peu, du coup, ça paraît un peu égocentrique alors que c'était pas son propos au départ. L'aspect de vie dans la clandestinité est un petit peu esquissé. On ne sait pas trop quelles étaient ses relations finalement avec Miguel Enríquez. Elle en fait un petit peu un portrait. Elle essaie on voit des documents d'archives de lui, de son frère, qui était aussi au MIR, de ce qu'ils ont fait dans la période 70-73 où Allende était au pouvoir. Il faut savoir que Allende avait recruté, avant 70, avant les élections, il avait recruté son service d'ordre parmi le MIR, en fait, parce qu'il y avait son neveu, en fait, qui était au MIR. D'ailleurs, on voit le neveu. Et à un moment, il dit qu'il se prenait pas mal la tête avec son oncle sur des points de vue idéologiques. C'est assez rigolo. Et, Et voilà, alors bon, c'est un film un peu imparfait, mais il y a des images d'archives vraiment, des trucs qu'on n'avait pas vu, même dans la bataille du Chili. Alors Ben, toi aussi, tu l'as vu, la bataille du Chili. Mm-hmm. Et moi, c'est un film vraiment essentiel. Enfin, la bataille du Chili raconte, c'est un film qui raconte, donc c'est Patricio Guzman qui a fait aussi le Capinochet, qui a fait aussi le film, son dernier film, c'est Salvador Allende, je crois.
C'est ça.
Et, enfin, comment dire, je dis pas que Patricio Guzman a eu de la chance, mais je crois qu'il a fait son film, en fait, c'est qu'il a commencé à filmer au moment des élections législatives en 72.
C'est ça, en fait,
c'est
oui.
Ça. Et, mais il filmait pour la télé, je crois, ou
ouais,
quelque
en fait,
chose comme ça.
Il filmait pour la télé, il faisait une espèce de chronique sur les élections, avec un filmant dans la rue, on a interviewé les gens, filmant les mouvements populaires, etc., le mouvement de masse.
En fait, finalement...
Et petit à petit, en fait, il filme jusqu'au moment où, du coup d'État. Et en fait, voilà. Il se retrouve à filmer petit à petit la mise en
l'arrivée
place,
l'arrivée
au pouvoir, petit à petit la contre-révolution bourgeoise qui se met en place. Et puis les freins à la révolution de Allende qui essayait de faire, et puis jusqu'au coup d'État, quoi.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 72, donc les élections législatives mettent la droite au pouvoir. Enfin, c'est la droite qui a la majorité à l'Assemblée. Sauf qu'ils n'ont pas suffisamment pas suffisamment nombreux à l'Assemblée pour pouvoir évincer, selon la constitution chilienne, évincer Allende. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont foutre la merde. En fait, ils vont déclencher des grèves, notamment des grèves de transport, parce que la droite est majoritaire dans les transports. Enfin, je sais pas, c'est tenu par des. Et ce qui est vachement beau aussi dans la bataille du Chili, c'est qu'on voit les ouvriers s'organiser par rapport à ça, qui soutiennent Allende. Il faut savoir que sous Allende, il y a eu plein de récupérations d'usines, donc les bourgeois, forcément les patrons sont pas très contents, les Américains non plus, même si on voit jamais les Américains finalement physiquement dans la bataille du Chili, on sait qu'ils sont tout le temps présents, qu'ils sont toujours derrière les actions. Et enfin voilà, pour décrire la bataille du Chili, c'est un film qui fait quand même 4 heures, 5
ouais,
heures, quelque
un
chose
peu moins
comme
de 4
ça.
Heures,
il est en 3 parties.
En, 3 parties. En fait, Guzman a réussi, par un merveilleux stratagème, a réussi à sortir les bobines, parce que du coup, il y a des heures et des heures de pellicule. Il a réussi à les faire sortir du Chili et les ramener vers Chris Marker, qui l'a aidé
à monter
tout ça. Et ouais, c'est vrai qu'on voit pas du tout les Américains, je me rappelle pas ça.
Non, on sait qu'il y a...
Il y a quand même la réflexion, je me rappelle là, petit à petit, les réflexions qui se mettent en place avant le coup d'État sur si jamais l'armée attaque, est-ce qu'on prend les armes ou pas. Il y a tout ce petit truc, et moi je me rappelle d'une scène super chouette dans le film Allende, où t'as un entretien avec des Chiliens, des militants chiliens, et où ils sont tous les trois en train de parler, donc ils sont un peu plus vieux maintenant. Et ils se racontent, ils disent, ouais, nous, on aurait dû prendre les armes, pourquoi il nous a dit de pas le faire,
En fait, Allende, jusqu'au dernier moment, a refusé, en fait, d'armer
la
population.
Et donc, il armait juste sa petite garde personnelle et autour du...
Qui n'a pas suffi.
Voilà.
Ouais.
Bah, non.
Et ce qui est pas mal, enfin, ce que j'aime bien, enfin, ce qui m'a plu, moi, dans Rue Santa Fe, c'est que vraiment, la bataille du Chili, c'est un truc qui m'avait marqué. Et dans Rue Santa Fe, on voit la suite, un peu. C'est à partir de 73, qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont s'organiser à l'intérieur? Qu'est-ce qui va. Enfin. Voilà, il y a eu aussi un peu cette réponse que je te parlais tout à l'heure on parlait hors antenne de Weathermen. The Weather Underground, ouais, qui est un film documentaire sur les Weathermen, donc c'était un mouvement underground américain qui a fait des attentats mais non meurtriers, c'était l'originalité du mouvement, c'est-à-dire qu'il faisait sauter des bombes mais il faisait pas de victimes.
Et dans ce
film-là, dans The Weather Underground, on voit tout le temps les mecs qui parlent, bon, alors à ce moment-là, je suis rentré dans la clandestinité. Bon, et on sait jamais ce que ça veut dire, cette putain de clandestinité. Pardon, excusez-moi, chers auditeurs, de m'exprimer ainsi, mais
c'est on sent que ça le trouble.
Non, mais c'est un petit peu énervant dans ce film. Mais
c'est cette super boîte de nuit, ils rentrent tous.
Voilà, c'est ça. La clandestinité. Wow,
c'est
avec
pas de
DJ. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et là, dans Rue Santa Fe, on a un petit peu des réponses. Après, en même temps, on se dit peut-être aussi un peu pourquoi trop dire ce que c'est que la clandestinité, quoi.
Comment
ça veut dire que les mecs, ils s'organisent,
ils
se rasent la moustache, ils changent de costume, ils changent complètement d'identité. Ils jettent leurs papiers, ils en font faire d'autres, enfin, etc. Et il y a des scènes vraiment dans Rue Santa Fe, il y a des témoignages vraiment bouleversants, et notamment une je vais pas révéler, mais une vieille maman qui parle de ses fils qui se sont fait tuer par la junte, en fait, et qu'au début elle comprenait pas pourquoi ils s'étaient engagés, en fait, et que après, en fait, finalement, après leur mort, elle a compris pourquoi. C'est un moment vraiment très beau. Et je pense que le film souffre d'être plusieurs choses à la fois, en fait, je pense. Ou aussi le fait que Carmen Castillo est peut-être pas... c'est pas une cinéaste, quoi, de formation, donc elle a peut-être des réflexions qu'elle n'a pas faites elle-même sur
l'image.
Sa pratique du cinéma, qui font que le film est un petit peu faiblard, mais vraiment, je conseille quand même, quoi. Enfin, il y a vraiment des beaux moments.
Mais c'est vrai que c'est un truc qui est important parce que du coup, par exemple, Guzman, lui, il a fait plein de films donc sur le ces périodes-là.
Ouais,
et à chaque sur voilà, mais à chaque fois, il s'oriente sur un point précis. Ça, voilà. Fois, ça, et du coup, c'est pour ça que ça marche. La bataille du Chili, c'est vraiment la chronique qu'il a fait parce que par défaut avec le coup d'État. Mais après, il fait le Capinochet vraiment sur la junte, la torture, etc. Après, sur Allende, du coup, c'est vraiment l'organisation autour du militantisme, du personnage. Le Salvador Allende, etc. Enfin, il a réussi à faire plein de films en dissociant à chaque fois la thématique qu'il veut aborder. Et du coup, c'est un truc qui marche plutôt bien à chaque fois, quoi. C'est con.
C'est peut-être ça. Alors là, tu vois, moi, je trouve que l'intérêt du film, particulièrement dans Rue Santa Fe, c'est vraiment le comment combattre de l'intérieur, quoi. Il y a vraiment des super beaux témoignages de militants. Et je pense que finalement, le prétexte est là au départ, c'est-à-dire revenir rue Santa Fe, revenir dans son pays, le Chili, revenir un peu sur les traces de son amour qui est mort. Finalement, ça passe un petit peu, c'est un petit peu en marge quoi du film finalement. Même si c'est le prétexte de départ, du coup, elle aurait peut-être pas dû, tu vois, je sais pas. Mmh. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle pose la question de et les jeunes maintenant, quoi. Enfin, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a notamment un entretien avec un jeune militant à la fin qui est pas mal du tout, parce qu'il pose la question aussi du paternalisme. C'est-à-dire, à un moment, les vieux lâchez-nous la grappe, quoi. Et non, mais c'est vrai, je trouve ça important de poser cette question, surtout en ce moment où on nous parle beaucoup de mai 68, machin, où t'as le retour des vieux militants. Je veux dire, c'est très bien ce qu'ils ont fait, etc. Mais voilà, il y a peut-être un moment où il faut se détacher aussi un peu de l'histoire pour avancer, quoi.
Mais sinon, il y a un très beau film qui va ressortir bientôt, j'espère qu'on va pouvoir le voir, et machin, c'est tu parlais de clandestinité, de prendre les armes, etc., etc. Il y a des films des newsreels aux États-Unis, qui est un collectif de cinéastes mené surtout par Robert Kramer, qui a été très connu après, et qui avait fait qui faisait des petits courts-métrages assez documentaires, notamment des relations avec Santiago Alvarez, qui était le cinéaste officiel de Cuba. Ils avaient été au Vietnam, ils avaient fait plein de choses, il y a tout sur les mouvements des Noirs, le mouvement des femmes, etc. Et ils ont fait un film, un long-métrage qui s'appelle Ice, où c'est représentatif des conflits idéologiques internes qu'il y avait dans le collectif, c'est-à-dire ils étaient quand même très, très nombreux, hein, ils étaient presque une centaine dans ce collectif, c'est un truc de fou, ils produisaient sans cesse. Et les conflits internes qui étaient on prend les armes ou pas, si jamais il y a l'armée qui arrive, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, ils essayent de mettre en film ce que ça peut être, cette angoisse-là de est-ce qu'on va prendre les armes, qui c'est qui les prendrait, qui c'est qui les prendra pas, qu'est-ce qu'on fait, on se barre, on s'en va, on reste, on s'exile. Du coup, c'est un beau film, du coup, ça me rappelle un peu ça. Voilà.
Gling, gling.
Ça marche pas
ça.
Non, c'est pas ça, c'est. Je voulais lancer un disque en fait, je me suis gouré de boutons.
Mais c'est
ça marche pas non plus.
C'est des one, c'est des two.
Ah bah zut alors. Ça ne marche pas, dis donc.
Mais est-ce que c'est bien CD?
Ah,
c'est
non.
Un MP. Ah bah voilà.
Ah voilà, c'est Violeta Parra. Excusez-nous, un petit problème technique, c'est dommage.
Violeta Parra.
C'était Violeta Parra, donc une chanteuse chilienne qui était pas mal, enfin qui a. Je crois qu'il est venu après. Enfin, moi, ce que j'aurais voulu passer, c'est du Victor. Victor Jara, qui est un chanteur. C'était le chanteur. Pas le chanteur officiel, mais un peu un chanteur très important au Chili, sous Allende, justement, qui faisait des chants populaires. Enfin, qui s'inspirait de la culture populaire chilienne et qui faisait des chants assez militants, des choses comme ça.
Il y a un livre qui est sorti sur lui, d'ailleurs.
Mais sa femme a écrit un livre qui s'appelle Un chant inachevé, chez Aden, qui j'ai pas lu, moi, mais ma compagne l'a lu, elle adore déjà, elle écoute beaucoup Victor Jara. Et c'est une anecdote, en même temps c'est pas une anecdote, Victor Jara c'était une des premières victimes de la torture de Pinochet, puisqu'il s'est fait couper les doigts
pour
l'empêcher de jouer de la guitare. Donc tant pis, on passera Violeta Parra une autre fois, j'espère. Victor Jara.
Et revenons un peu à l'actualité, toi qui disais, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Le parallèle avec le Chili était tentant parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant dont on a envie de parler. Et notamment d'un petit fascicule qui se diffuse sur Internet d'une façon complètement gratuite et les auteurs encouragent largement à sa reproduction et à sa diffusion. Ce sont les éditions Ça recommence, hein, je crois que j'ai pas besoin de vous décrire le jeu de mots. Mai 2007, donc un an déjà. Ce petit s'appelle Refuser le fichage. Ça va, je télécharge l'émission. Bon, j'avance un peu le site pour un peu que je trouve. De pas celle de ce soir. Enfin, je télécharge, non, pardon, je capture. Hey, go! Ah merde, je télécharge la basket sur la
29.
Ça parle de
Gaudard et tout ça. Et non, c'était...
Déjà, vous deux, 480 000 ajouts, vous avez 480 000 ajouts. Vos prix d'ADN sont trouvés dans le fichier national de l'identité des enfants génétiques. Seuls les délits financiers et les événements sociaux ne sont pas considérés.
Bah tiens, un voyant.
C'est pas pareil, hein. Vous ne comprenez pas.
Vous êtes toujours des déviants qui viennent de
vous. Voilà, c'est des forcains. Des gens bien. En plus, ils sont bien des millions.
Comment en est-on arrivé là? Quel projet de société décide de l'affichage génétique? Peut-on refuser de prélever l'ADN? Quelles sont les conséquences d'un prélèvement? Comment sont les démocratistes? Vu le contexte politique actuel, toute personne ayant une opinion qui se situe dans une politique économique ou sociale sera refusée de prélever l'affichage génétique et se verra donc sommée de choisir, accepter le prélèvement ADN.
Et là, t'imagines que c'est le fichage.
J'imagine le fichage ADN plus les cartes d'identité biométrique qui viennent de passer par le passeport biométrique, qui ont donc non seulement des traces ADN, non, parce que et aussi les puces qui permettent de retrouver les couleurs. Et ouais, tu peux aussi du fichier des enfants à l'école. Je veux dire qu'il est en école, c'est aussi à remplir ça chaque fois. C'est donc l'idéologie pour Scénario 5 qui Et donc voilà, à titre d'information, comme un bon paquet d'entre nous risque d'être
donné à le déjeuner,
ADN.
C'est pas la même version.
Parce que c'est un peu sur le site refume ADN, tout attaché, refusadn.free.fr, pour savoir où est les mettre sur les risques. Qu'est-ce que j'étais déjà? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà? José Abdel Argentino, Arabica Yan Patochka, ou bien alors bébé Coque. Il m'a tapé sur un bête, je ne pouvais pas
me battre.
Ni même si ça m'a m'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau? Pour de l'argent ou la couleur de ma peau, j'ai un peu de dans ma mémoire. Quand la vieille chaussée m'en cernée, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la place du Nord, bouché les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de briques d'or. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrant un nouveau monde? Je suis mort répondu. Je m'appelle Guillaume Patochka Argentin, et bébé Foc arabe maintenant. Ça me revient.
Intelligence, des machins du savoir. et au moins de la conscience de soi, des années plus tard, il y a un ordinateur qui prend une certaine conscience de soi, donc des dangers, conscience de soi qui forcément peur de perdre son bien-être, donc de la facilité, donc machin, jusqu'à ce qu'un individu retourne au fond de la conscience de soi, c'est-à-dire le retour sur soi-même, donc le retour à sa propre connaissance. C'est ça le film aussi. Et là, il peut me résumer philosophique en de base. Qui est derrière?
Non, c'est
vraiment.
C'est pas ce que tu veux dire, c'est que je me suis dit, mais c'est bien c'est que ta image, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans le film.
Et dans ce style-là, ils ont fait le décor, c'est l'arrangement des trois gorges.
Et d'ailleurs, il y avait eu un gros
c'est assez sérieux, j'ai un peu du mal avec la ligne. Donc c'est un barrage en fait, qui a été fait par le gouvernement chinois et qui a fait que les gens ont monté.
Les villages qui sont tous les
plus et là-bas, au moment où ils vont passer le cap des, je ne sais plus, 350 mètres, en tout chute, avec son train marqué sur des maisons à limite que l'arrivée sur le coup. Moi j'ai beaucoup aimé Still Life, mais un peu moins The World, mais c'est peut-être parce que j'ai vu d'affilée.
Bref, et du coup, on avait vu dans la forêt, c'était un peu ce qu'il avait dit.
Il y a des longs travelling, il y a beaucoup de caméras.
Et du coup, on pensait à un peu ce qu'il
dit. Ça va très bon. Avec des personnages pas forcément très loquaces d'ailleurs. Celui de Still Life, qu'on voit d'ailleurs dans The World, c'est bon, il est forcément très loquaces.
Tout ce que vous voyez dans le film.
Et le personnage principal de Still Life,
enfin, tu sens que du coup, le prof est un peu super content parce que du coup, c'est genre, tu te rends compte que ça marche. Si un boss commence à te dire, tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qu'elle voulait raconter, pourquoi t'as voulu raconter. Et maintenant, si vous pouviez résumer votre film, qu'est-ce que vous diriez quoi.
Ça fait un peu bizarre, c'est pas un film.
c'est énorme, quoi, parce qu'il y a tout le temps un mouvement, et cette sensation de mouvement aussi, quoi, du coup, vu de la main, il y a le mot style d'ailleurs, vu qu'il mouvement dans la parole, et du coup, le fait que lui, il essaye de mettre en mouvement cette chose de mettre les parallèles entre les mouvements des êtres qui sont en train de se déplacer aussi bien autour, que le mouvement des êtres, une espèce de carte mouvement auquel ils sont liés aussi, pour un rapport artistique et spectaculaire qu'est donné. Et ça, c'est une chose qui est spécialement maîtrisée, étant donné que dans une stèle, en fait, il y a des prises de ça entre les ouvriers et puis elle qui va parader à Paris, qui est la couturière. Voilà, avec un long travelling, on les voit travailler, et puis il y a un inspecteur, de, enfin un médecin du travail qui est en train de écouter les gens, les mecs sont inspirés. Mais il y a ce parallèle-là, en fait, je trouve que c'est une façon on saisit ça. Moi, encore, je me demande si je saisis ça parce que j'ai. Sinon, le montage est un peu brouillon, on ne saisit pas trop, on n'y a pas du tout. Même, on n'arrive pas du tout à faire les liens entre les.
Oui, telle importance qui est donnée au défilé lui-même, que ça déséquilibre le film. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, après, tout le discours de la styliste est plutôt. C'est mise en avant, elle dit ouais, voilà, on a perdu le sens de comment étaient fabriqués les vêtements, machin,
ouais, je trouve. Ouais,
c'est
tout ça. Je ne trouvais pas.
Thank you.